en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie pour votre trop aimable présentation. Monsieur le Chancelier, monsieur le Perpétuel, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui dans le cadre du programme, cher Président, que vous aviez établi, présente une série de difficultés. Tout d'abord, l'opinion publique avec un grand O, et entre guillemets en quelque sorte, est évidemment une abstraction. L'historien préférera évoquer les courants ou les mouvements d'opinion, qui sont d'ailleurs souvent antagonistes et en tout cas très rarement unanimes dans une société donnée. La deuxième difficulté, comment mesurer le poids d'une opinion ? Dans la pratique, et vous y avez fait allusion, on recourt souvent à l'étude de la presse, même s'il est clair que la presse ne reflète pas, ne peut pas refléter toujours les différents courants de l'opinion dans leur place respective, dans leur hiérarchie réelle. D'autre part, les sondages les plus soigneusement établis ne sont jamais qu'une photographie instantanée de l'opinion. Et leur interprétation, je vous en donnerai un ou deux exemples, n'est pas toujours évidente. Les manifestations, même spectaculaires, même violentes, ne représentent pas forcément l'opinion dominante. Et la minorité, la majorité silencieuse, comme on dit, trop rapidement peut-être. Les élections sont, à mon avis, encore, dans les pays démocratiques, bien entendu, le moins mauvais moyen d'observer l'état de l'opinion, au moins dans ses orientations générales. J'ai tendance à penser pour ma part, mais ça n'engage que moi, qu'une opinion qui n'est pas amenée à s'exprimer clairement dans une urne, finalement reste un flatus vocis ou une idée vague, n'est-ce pas ? Étant entendu que la mesure de l'opinion est encore plus difficile quand il s'agit de la politique extérieure, des relations internationales, sujet lointain et complexe pour la grande majorité des électeurs. D'autre part, la question est encore plus difficile quand on prend en compte l'ensemble de la société et pas uniquement les élites dirigeantes. Vous y avez fait allusion à ce problème. Quant à la politique extérieure, nous savons que c'est un ensemble complexe qui va bien au-delà de la diplomatie, qui recouvre bien des aspects comme l'économie, la culture, la religion, les mouvements de population, tout mouvement, tout phénomène qui peuvent exciter l'opinion ou les secteurs de l'opinion, beaucoup plus qu'un traité ou qu'un accord diplomatique, et qui peuvent provoquer des réactions qui, dans certains cas, nous en verrons des exemples, obèrent ou limitent la liberté d'action des gouvernements. D'autre part, on observe une évolution dans le temps, ce qui fera l'objet de la première partie de cette communication. Je dirai quelques mots du XVIIIe siècle et des Lumières. Je passerai rapidement sur la Révolution et l'Empire, dont Jean Tullard nous parlera la semaine prochaine, mais qui voit la naissance de l'opinion publique, à mon sens. La période de la Restauration 1815-1848, comme dans beaucoup de domaines, pas seulement en France, mais en Europe, est une période fondatrice et qui voit la mise en place d'une typologie de notre sujet, sinon, bien entendu, le sujet définitivement établi comme nous le connaissons aujourd'hui. La deuxième moitié du XIXe siècle, avec le suffrage universel, l'école et le service militaire obligatoire, la presse à bon marché, établissent définitivement l'horizon de notre sujet, le cadre de notre sujet. À partir de la Première Guerre mondiale et pendant tout le XIXe siècle, on peut considérer que les enjeux concernent désormais tout le monde, ne serait-ce que parce que c'est maintenant une guerre de masse qui engage toute la population, en tout cas masculine. Et on peut considérer que la démocratie s'insinue progressivement dans la politique extérieure, que la propagande se perfectionne, que les sondages apparaissent, que les élections comportent de plus en plus souvent des enjeux internationaux. Actuellement, je dirais depuis la fin de la guerre froide en gros, avec Internet et bien sûr la mondialisation, la question franchit encore une nouvelle étape, mais nous n'irons pas jusque-là. D'autres exposés dans l'année et d'autres communications sont prévues. Je me permettrai quelques remarques en conclusion. Après avoir essayé de clarifier à la lumière de l'histoire la question posée. Après cette première partie chronologique, dans une seconde partie, on traitera quelques grands thèmes transversaux. Alors, la période des Lumières, notre sujet commence en fait au XVIIIe siècle. Au XVIe siècle apparaît certainement, existe déjà une conscience de soi nationale et des préjugés nationaux. On pourrait le prouver en citant toute une série d'auteurs, de voyageurs de l'époque, de réactions populaires à l'époque. Mais encore, on ne conçoit pas encore une politique extérieure en sens moderne du terme. Nous sommes encore au XVIe siècle dans des rapports de type féodal, dans des oppositions ou des guerres de religion qui dominent l'espace européen. Ce n'est qu'avec la mise en place au XVIIe siècle de ce que l'on appelle le système de Westphalie, qui est le système de relations interétatiques, qu'apparaît une véritable politique extérieure. L'opinion, cependant, n'y prend pas tout de suite sa place. En revanche, les Lumières, au XVIIIe siècle, voient la naissance du phénomène qui nous occupe. C'est du moins la thèse que je défends. Seulement, dans un premier temps, il s'agit de l'opinion d'une élite. Les hommes éclairés, comme disait toujours Talleyrand, qui s'est beaucoup occupé de la question de l'opinion dans ses rapports avec la politique extérieure. Il a écrit, on a noté des choses dans ce domaine. Et la politique extérieure commence à devenir en même temps un enjeu général de politique. Vous avez cité le traité d'Aix-la-Chapelle, qui voit la France renoncer finalement à des avantages qu'elle aurait pu réclamer au profit de la Prusse, ce qui donne lieu aux expressions fameuses « bête comme la paix », que vous avez cité, une qui est restée proverbiale dans notre langue, « travailler pour le roi de Prusse », n'est-ce pas, en l'occurrence, Frédéric II. Ce qui est la première révolte ou manifestation d'une révolte d'une certaine opinion, certes circonscrite dans la société de l'époque, mais concernant bien un autre sujet sur la politique extérieure. Avec la Révolution et l'Empire, le sujet évidemment évolue. L'expression d'opinion publique est utilisée par les révolutionnaires dans le sens moderne du terme. Mais désormais, encore dans le dictionnaire de l'Académie de 1777, l'expression existe, mais elle ne signifie pas du tout ce que nous entendons par opinion publique. Elle signifie en fait renom, estime générale, le prestige qu'on peut avoir. Désormais, l'opinion publique désigne en fait la volonté générale des patriotes, je dis bien des patriotes, dans le sens rousseauiste du terme volonté générale. Ça, il ne s'agit pas d'une majorité numérique, mais d'une majorité politique et idéologique. Il s'agit d'une volonté générale suscitée, trié, épuré par les clubs révolutionnaires, on a affaire à une dynamique de groupe complexe qui est dialectique, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une simple propagande des responsables de la politique vers le bas, c'est à double effet. Retenons déjà deux choses, certes les opinions se développent à travers des dynamiques et des mécanismes qui à la fois les utilise et les informe, et ne flotte pas comme ça dans l'atmosphère. Mais l'analyse de Pierre Bourdieu, sur laquelle l'opinion n'existe pas en tant que telle, mais n'est qu'une création, me paraît dans l'autre sens excessive et trop courte. La vérité, grosso modo, est entre les deux, à mon sens. La guerre, le programme d'expansion idéologique, guerre au roi, comme on dit, le programme des républiques sœurs, n'est pas seulement une reprise de la géopolitique de l'Ancien Régime, et sur ce point je ne suis pas d'accord avec Albert Sorel, elle est aussi sui generis, la politique extérieure révolutionnaire est indissociable de la politique intérieure, d'autant plus que la guerre doit solidariser la patrie en danger, elle est aussi instrumentalisée par la politique révolutionnaire. Le Premier Empire fait un grand effort pour former l'opinion, y compris pour la politique extérieure, vers toutes les classes de la société, mais je n'insiste pas parce que je ne voudrais pas traiter le sujet de Jean Tullard. Cependant, la France n'est pas la seule en cause. L'affaire se déroule également de façon plus subtile et décentralisée en Grande-Bretagne, mais elle se déroule bien. Londres mène une guerre politique et une guerre de propagande, pendant ce que les Anglais appellent les « French Wars », concernant la période révolutionnaire. Et c'est un phénomène extrêmement intéressant de cet affrontement gigantesque que le Royaume-Uni mène à un moment donné seul contre pratiquement toute l'Europe. Les caricatures anti-napoléoniennes de James Gillray, par exemple, font le tour de l'Europe. Vous en avez vu beaucoup sans peut-être vous rendre compte que c'était aussi le résultat d'une politique ciblée. 1815-1848, la période est vraiment passionnante. Trois tendances se dégagent, elles sont quasi structurelles, si on fait abstraction d'évidents anachronismes, et au fond, elles vont régler notre problème, elles vont encadrer notre problème de façon durable. Vous savez ce que j'appellerais la politique de cabinet, ce qu'on appelle la politique de cabinet, et c'est-à-dire la politique extérieure gouvernementale menée en grand secret entre les cabinets européens. Le maître incontesté de cette politique sera Talleyrand, du Congrès de Vienne à son ambassade à Londres sous Louis-Philippe de 1830 à 1834. C'est une diplomatie secrète qui essaie de s'abstraire de l'opinion dans la gestion quotidienne des affaires, mais qui tient compte des grands courants de l'époque. C'est un équilibre délicat, mais que Talleyrand maîtrise à merveille et explique. On a des textes. Il sera d'ailleurs, Talleyrand, en même temps un grand défenseur de la liberté de la presse sous la Restauration comme sous la monarchie du Juillet. Mais pour lui, il s'agit bien entendu toujours des hommes éclairés. Concrètement, sous la Restauration, les électeurs du suffrage censitaire, qui sont abonnés aux journaux, fort chers à l'époque, qui au mieux les lisent dans certains cafés des grandes villes. Deuxième courant, ce que j'appellerais une proto-démocratie d'opinion en matière de politique extérieure. C'est la geste populaire de l'épopée impériale propagée par les vétérans de la Grande Armée. Lisez « Médecin de campagne » de Balzac, vous aurez exactement cette description. Propagée par les chansons patriotiques anti-Sainte-Alliance, ça touche aussi la politique extérieure de quelqu'un comme Béranger. Bon. Des thèmes de relations internationales apparaissent contre les traités de Vienne, pour la Pologne, à l'occasion de soulèvements polonais de 1830. Cela marquera très nettement l'opinion, au moins à Paris et dans les grandes villes, lors de la Révolution de 1848 et des années suivantes. Troisième orientation, le cas anglais, une fois de plus. Incontestablement, on assiste alors au Royaume-Uni, au début de la formation de l'opinion dans le sens actuel du terme, grâce à un parlement dont les débats sont publiés, Hansard, n'est-ce pas, une collection extrêmement utile, grâce à une presse développée, grâce aussi à une société aristocratique entretenant des liens à l'échelle européenne. Avec Lord Palmerston, chef du Foreign Office ou Premier ministre, avec de brèves interruptions, durant toutes les années 1830-1865, la Grande-Bretagne devient un véritable laboratoire d'innovation politique et économique. Elle invente une politique internationale d'un type nouveau, expliquée à l'opinion publique, par exemple par la publication absolument révolutionnaire pour l'époque des livres bleus, des Blue Books, qui mettent à disposition du public des documents diplomatiques sur les affaires en cours. Nous trouvons ça aujourd'hui normal, à l'époque c'est révolutionnaire. La société anglaise s'implique, par exemple, la société au sens large du terme, s'implique dans le soutien à la lutte contre la traite et l'esclavage, l'une des grandes causes internationales de l'époque, et soutenu activement par la marine britannique, la Royal Navy qui pend haut et court les négriers, n'est-ce pas, les différentes mers du globe. La seconde moitié du 19e siècle, l'arrivée du suffrage universel, l'école obligatoire, service militaire universel et la presse à bon marché entraînent évidemment une nouvelle période dans notre sujet. Le contrôle gouvernemental tient compte des nouvelles réalités. L'opinion est désormais une donnée admise, mais qu'on essaie de contenir ou d'utiliser, mais on en tient compte. Bismarck, qu'on ne peut pas présenter comme un grand démocrate, mais il tient le plus grand compte de l'opinion et des médias. Il est l'auteur, par exemple, d'un des fake news le plus fameux de l'histoire, la dépêche d'Ems, n'est-ce pas, en 1870, qui n'est pas exactement un fake news, que le fond est vrai, mais la présentation est parfaite, n'est-ce pas, pour obtenir le résultat souhaité sur l'opinion française. Tel du moins que Bismarck l'a raconté par la suite, sur le moment, c'est peut-être moins net, mais enfin, passons. Bon, Bismarck suscite des articles dans la presse, comme en 1875, le fameux article « La guerre en vue » qui a failli provoquer une guerre européenne. Il influence la presse grâce à ce qu'il appelait le fond des reptiles. Reptiles, le fond, ce qui n'est pas forcément un compliment pour la profession, mais enfin, c'est le réalisme de Bismarck qui parle, et il payait effectivement. Napoléon III n'est pas en reste. Et j'insiste sur le fait qu'avec le recul, les méthodes gouvernementales de Bismarck et de Napoléon III sont loin d'être totalement dissymétriques. Elles ont beaucoup en commun. Napoléon III dit « J'ausculte en permanence l'opinion ». Et les préfets doivent lui transmettre des rapports hebdomadaires sur l'état de l'opinion. Il prend parfois la plume incognito, où il suscite des pamphlets, comme la brochure publiée par le vicomte de la Guéronnière, qui est un de ses porte-paroles fréquents, en décembre 1859, le pape et le congrès, sur la question capitale à l'époque du pouvoir temporel du pape. Mais on notera que, comme tous les régimes autoritaires, le Second Empire était pris dans une contradiction. Il empêchait l'opinion de se manifester, et en même temps, il était bien obligé d'en tenir compte, au moins autant que d'autres, et peut-être même plus, puisqu'il n'y avait pas de parlement permettant d'exprimer réellement l'opinion. Il est donc bien obligé de l'étudier. C'est un des paradoxes. Les régimes qui méprisent ou répriment le mieux l'opinion sont en même temps ceux qui l'étudient parfois le plus. Ceci dit, la démocratisation et la libération de la presse, à la fin du Second Empire, permettent une certaine émancipation de l'opinion. La presse a commencé à se démocratiser dès 1835-36 avec la fondation par Émile de Girardin du journal La Presse, quotidien à bon marché, qui était tout à fait révolutionnaire à l'époque grâce aux nouvelles techniques d'impression. Et en 1863, Millau lance un journal à bon marché grâce à la publicité, qui est intervenue au départ comme un moyen de rendre la presse accessible au plus grand nombre. Les décrets impériaux de novembre 66 et janvier 67 libéralisent, pas totalement, mais largement le régime de la presse, qui conduit à l'éclosion de nombreux journaux dans la phase finale de l'Empire libéral. L'opinion commence à devenir un facteur agissant, que d'ailleurs le gouvernement ne contrôle pas toujours. La guerre de 70 en est un exemple. Elle a été déclarée par la France contre le sentiment de l'empereur, contre celui du chef du gouvernement Émile Ollivier, à la suite d'un phénomène, je dirais, de résonance entre la presse et l'opinion. Je précise tout de suite l'opinion parisienne, la province beaucoup moins nette. Après 1870, en France comme en Grande-Bretagne, on connaît des poussées de l'opinion. En Angleterre, ce sont les scares, les fameuses peurs, n'est-ce pas? Ou plus tard, la période du jingoïsme nationaliste. En France, c'est l'excitation au moment de l'affaire de Fashoda en 1898. Et en France en particulier, il y a bien des agitations nationalistes, avec l'affaire Boulanger, puis ensuite, et surtout, je dirais, avec l'affaire Dreyfus. Et les réactions que ces deux affaires, Boulanger et Dreyfus, suscitent, met en place un triangle idéologique entre la démocratie, les médias et l'opinion publique, la démocratie, le gouvernement démocratique, si vous voulez, les médias et l'opinion publique, avec des groupes organisés, des partis qui commencent seulement à se structurer à cette époque, ce qu'on appellerait aujourd'hui des lobbies, des divisions désormais structurées de l'opinion dans des affaires qui concernent pas seulement, mais aussi la politique extérieure. C'est là également qu'apparaissent les intellectuels, expression forgée par Clémenceau, et qui désignent, pas uniquement, mais en particulier, leur rôle croissant dans les prises de position médiatiques. Les dirigeants désormais se trouvent devant un problème permanent. La politique extérieure ne peut pas être mise en permanence sur la place publique. Mais en même temps, cette situation est de plus en plus contradictoire de l'évolution générale des sociétés européennes, en particulier pour les grands enjeux. Napoléon III lui-même le sent. Il pratique une politique, une diplomatie très très secrète, parfois même en cachette de ses ministres. Mais il cherche contact avec l'opinion pour les grandes questions, c'est-à-dire la remise en cause des traités de Vienne, la question des nationalités, car l'unification italienne est un thème populaire, le pouvoir temporel du pape, la question la plus difficile dans la France de l'époque. Mais c'est Cavour qui va le plus loin dans le raisonnement, à l'occasion du rattachement de la Savoie à la France en 1860. Il est très méfiant à l'égard de l'opinion. Il est très partisan, bien sûr, du suffrage censitaire. Mais dans cette question de la Savoie, qui est complexe, je ne peux pas résumer, il va finalement admettre qu'un plébiscite au suffrage universel doit permettre aux Savoyards de s'exprimer sur une question qui est pour eux existentielle, étant entendu que le Parlement de Turin devra approuver ensuite toutes les mesures législatives nécessaires et susciter toutes les mesures législatives nécessaires pour tirer les multiples conséquences de leurs décisions. Théorisée par Cavour, cette méthode du référendum, prouvant l'accord majoritaire de la population concernée pour une orientation fondamentale, grande option nationale. Il n'est pas question de faire avaliser par référendum les immenses conséquences techniques qui en découlent. Cette méthode sera largement utilisée après 1919 dans les différents référendums, ils ont été nombreux, n'est-ce pas, qui ont été menés en Europe après les traités. Mais à la fin du XIXe siècle, commencent à se manifester des mouvements d'opinion internationaux, réellement internationaux, puissants. D'une façon générale, l'international socialiste, qui a un programme internationaliste, pas tout à fait comme le mien, que je qualifie de non-prolétarien, si vous permettez, cher président, enfin, un programme internationaliste, incontestablement, et pacifiste, j'insiste là-dessus. C'est l'un des objets essentiels de la Seconde Internationale. Ou encore les premières manifestations internationales importantes dans toute l'Europe et en Amérique. La première a eu lieu à l'occasion de la mort, l'exécution de l'anarchiste espagnol, ou libertaire espagnol, Francisco Ferrer, en 1909, condamné et exécuté pour sa prétendue responsabilité, il n'y était pour rien, d'ailleurs il a été réhabilité en 1912, c'est pas un peu tard, mais enfin, pour sa prétendue responsabilité dans le soulèvement de Barcelone au printemps 1909. Mais ce sont surtout les partisans de la libération des nationalités opprimées, comme on disait, des empires russes, ottomans et austro-hongrois, qui sont là, à partir de la fin du XIXe siècle, les plus intéressants. C'est sans doute, avant 1914, le mouvement international le plus puissant, sinon majoritaire, et en tout cas très décidé et influent, grâce à un bon triangle, comme je dis, entre le monde politique, avec de puissants groupes de pression, les médias et l'opinion. La guerre de 1914... amène le triomphe de la démocratie ou accompagne le triomphe de la démocratie. Plus tard, les sondages apparaissent et les élections connaissent de plus en plus souvent des enjeux internationaux. La Grande Guerre est un tournant. C'est une guerre totale. Le conflit implique tout le monde et tous les ressorts du pays, y compris l'opinion. C'est là qu'apparaissent les termes comme le terme de morale, qui se réfère évidemment à l'opinion, comme l'arrière, qui fait de l'arrière, avec un grand A, une entité, il y a les armées au front et derrière l'arrière, qui a son opinion. L'opinion est une cible essentielle. La propagande et la censure s'établissent et se perfectionnent comme jamais auparavant. Ce sont les deux faces d'une même médaille. On a des sources nombreuses pour cette période, y compris la correspondance des combattants, je vous dirai pourquoi et comment. L'opinion devient un facteur clé de la conduite de la guerre. Les dirigeants redoutaient les réactions de l'opinion en cas de guerre, dans le cas français, à la suite des élections de mai 1914, qui avaient vu arriver une majorité parlementaire très pacifique, pour ne pas dire pacifiste, enfin, ce n'était pas du tout l'esprit de la guerre de 14, loin de là. Mais le gouvernement réagit en mettant en place, à partir dès le début de la guerre, l'Union sacrée, qui eut d'ailleurs son équivalent en Allemagne. Il s'agissait de frapper l'opinion et de reconstituer l'unité de cette opinion malgré les divisions politiques d'avant-guerre. Ce fut une véritable opération politique dont les ressorts sont maintenant bien connus. Rappelons en particulier que le 28 juillet, Jaurès avait été assassiné et on craignait des réactions très, très violentes. Et là aussi, il fallait bloquer ces réactions et rassembler l'opinion, la mobiliser autour du gouvernement. C'est le sens de l'Union sacrée. Or, cette consolidation de l'opinion était nécessaire. En fait, Jean-Jacques Becker avait montré que l'excitation nationaliste qu'on a retenue pour 1914 existait à Paris, beaucoup moins en province, où la guerre fut en général accueillie avec un mélange de consternation et de résignation, mais sans enthousiasme. On assista immédiatement à la mise en place d'une censure de la presse, mettant en sommeil la loi de 1881. On ne se contenta pas, comme par le passé, d'une censure des informations militaires confidentielles, mais on mit en place un véritable système d'information, unissant une censure frappant tous les domaines, y compris la politique intérieure, la politique extérieure, les buts de guerre, et unissant cette censure à la propagande tournée aussi bien en direction de l'opinion française que vers l'étranger. En ce qui concerne la propagande vers l'étranger, la guerre vit une tentative d'organisation, de développement avec la fameuse Maison de la Presse, créée en 1915 par diplomate Philippe Berthelot, avec des résultats d'ailleurs mitigés finalement. Quels furent les effets de ces différentes mesures sur l'opinion française face à la guerre? Ce sont les soldats sur lesquels on est le mieux renseigné par la censure militaire qui lisait leurs courriers, en recopiait des passages significatifs et classait les opinions exprimées en fonction de critères simples mais valables avant de refermer les enveloppes et de faire suivre les lettres à leur destinataire. C'était fait très rapidement, je ne me rendais pas compte. Les critères de sélection sont simples mais valables. on voit que les soldats comprennent ou au moins sentent les grands mouvements de la guerre. Ils ont par exemple vite compris l'échec de l'offensive Nivelle en avril 1917. Ils ont compris les enjeux et les problèmes de la conférence socialiste internationale de Stockholm en juin 1917. Question complexe, mais on se rend compte que les soldats n'étaient pas au courant. Ils ont compris le risque d'une manipulation de ces conférences de la part de l'adversaire, même s'ils s'intéressaient, ils suivaient ça de très près, évidemment, ils se sentaient très concernés. Le message de paix du pape Benoît XV, le 1er août 1917, suscita des réactions très intéressantes, pas négatives d'ailleurs, mais qui méritent d'être lues. On est moins précisément renseigné sur l'arrière. On sent la faiblesse et la dépression de l'opinion en 1917. Les observateurs contemporains en sont convaincus. Les études locales qui se multiplient le confirment maintenant. Mais l'opinion se reprend et adhère à la politique très ferme de Georges Clemenceau, président du Conseil, à partir de novembre 1917. Et les élections de novembre 1919, exceptionnellement pour la France à la proportionnelle, n'est-ce pas ? Bon, en apportent une preuve irrécusable par l'élection d'une forte majorité bloc national qui contraste totalement avec la Chambre de 1914. Le pays ratifie la façon dont la guerre a été conduite pour finir et les traités de paix. Seulement, le wilsonisme va produire un grand et définitif changement dans le traitement de la presse et de l'opinion en matière internationale. Président Wilson se soumettait dès avant la guerre à une conférence de presse hebdomadaire, dont les textes ont été publiés. Et une vraie conférence de presse, si je peux me permettre, ce n'est pas toujours le cas des présidents de la République, avec des vraies questions qu'il ne s'attend pas, qui lui sont posées en rafale et auxquelles il essaie de répondre de son mieux, pas toujours de façon facile. Cependant, en 1919, la puissance de la presse est déjà évidente. Dans ce récit de la négociation du traité de Versailles, André Tardieu, journaliste lui-même, est chargé du contact avec les correspondants étrangers au grand quartier général avant d'être placé à la tête d'une mission aux États-Unis en 1917, l'explique très bien dans ses mémoires. Pour la première fois, la question de la presse et de ses correspondants, les journalistes, se posait pleinement aux relations internationales. Wilson est arrivé en France pour la conférence de Paris, suivi par 300 journalistes américains, très présents et d'une totale indiscrétion, n'est-ce pas, on va le dire. Bon. La leçon fut très vite tirée. Aristide Briand, qui avait mené une guerre très énergique en 1915-1917, qui, président du Conseil en 1921-1922, avait encore essayé de faire appliquer les traités de paix dans leur rigueur, tira les conséquences du retournement de l'opinion française à partir de l'automne 1923, à la suite, je dirais très rapidement, de l'échec de l'occupation de la Roure par Poincaré en janvier 1923. Et du coup, Briand, qui n'était pas du tout parti pour ça, se mue en pèlerin de la paix, avec des journalistes à sa dévotion, on peut même dire avec un véritable appareil de presse et des discours étudiés d'un style nouveau, étendant l'éloquence politique démocratique classique au domaine de la politique extérieure. On n'a pas oublié son fameux discours de Genève lors de l'entrée de l'Allemagne à la Société des Nations, « Arrière les canons, arrière les mitrailleuses bon. ». Il fut, Aristide Briand, un maître de la communication moderne. Je donnerai encore d'autres détails dans le texte écrit, mais enfin, je progresse. À partir de là, si l'opinion ne fut pas vraiment en prise directe sur la politique extérieure, du moins les journaux le furent. Ils furent nombreux, divers et richement dotés jusqu'aux années 1970-1980. À partir de la Première Guerre mondiale, se mit en place un système de relations entre politique extérieure, opinion, gouvernement et médias, qui durera en gros jusque vers les années 1990, en très gros. Mais là, on se dirige vers des périodes que d'autres couvriront mieux. Je tiens quand même à poser mon opinion. Plus une presse est, mieux une presse est dotée et plus les journalistes eux-mêmes sont bien traités par leurs employeurs, mieux ils font leur travail. J'espère que ce propos, cher président, vous ira droit au cœur, n'est-ce pas ? Bon, ainsi qu'à d'autres personnes présentes. Bien. J'aborde maintenant la deuxième partie sur les problèmes thématiques. Première question, comment se forme l'opinion publique à propos de la politique extérieure ? C'est très complexe. Il faut d'abord tenir compte des structures et tendances lourdes de l'opinion, de son inertie, des préjugés traditionnels, y compris religieux et historiques, des images, représentations et stéréotypes, comme le stéréotype de l'ennemi héréditaire. Les médias influencent-ils dans ce cas l'opinion ou la suivent-ils pour des raisons de vente, tout simplement, de leurs journaux? Dans quelle mesure les lecteurs ou les spectateurs aujourd'hui choisissent-ils leurs sources d'information en fonction de leurs tendances, orientations et affinités? Bien entendu, il faut tenir compte de l'offre, c'est-à-dire de la richesse et de la variété des médias en matière de relations internationales, qui peut d'ailleurs varier dans le temps pour un même organe. Les références des années 1960 ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Il faut évidemment tenir compte des influences qui s'exercent sur les médias, des pressions de tout type, gouvernementales, capitalistiques, etc. Mais il reste que la grande époque de la presse pour les relations internationales commença à partir de 1919 avec, je répète, des moyens, des accès aux décideurs, des réseaux de correspondants à l'étranger, etc. La radio puis la télévision apportèrent évidemment leurs spécificités, mais on peut penser que l'influence des médias sur l'opinion fut dans l'ensemble importante pendant ce âge d'or. Une carrière comme celle de Walter Lippmann aux États-Unis, qui au cours de sa carrière aida Wilson à rédiger les 14 points en 1918 et qui inventa en 1947 le terme de guerre froide, complètement faux, mais enfin qui est resté, n'est-ce pas? Bon, en est une bonne illustration de journaliste à la fois faiseur d'opinion et conseiller du prince. Maintenant, les choses évoluent très vite avec l'Internet, etc. Je n'insiste pas. Il est clair que les derniers événements internationaux n'ont pas toujours été prévus par la presse, comme le Brexit, moi, majorité de la presse, ou les élections du président Donald Trump, n'est-ce pas? Bon. Il y a un problème, il y a un décalage récemment. On peut penser que la contribution des médias classiques à l'information et à la formation de l'opinion en matière de politique extérieure a reculé. On peut le penser, point d'interrogation, je m'interroge. Ce qui remet en cause le triangle évoqué précédemment entre opinion, médias et dirigeants. D'autant plus que l'opinion paraît de plus en plus atomisée et moins facile à résumer en grande tendance. Je dirai encore un mot en conclusion de ce point. Quels sont les effets réels de la propagande en matière internationale? Pour résumer un sujet complexe, je dirais que les gouvernements obtiennent en général, quel que soit leur type, démocratique, totalitaire ou autre, des succès vers leur opinion nationale. Que, en revanche, c'est beaucoup plus difficile, sauf certains cas particuliers, vers les autres pays. La propagande extérieure est plus difficile. Dans un livre fondamental, Jacques Ellul, livre intitulé « Propagande », l'avait bien expliqué, n'est-ce pas? Les peuples ont tendance spontanément à croire leur gouvernement quand il s'agit de politique extérieure, tout au moins, mais la propagande qui vient d'un gouvernement étranger, sauf cas de division de l'opinion, évidemment, qu'on peut exploiter, est beaucoup plus récente. Je pense qu'avec l'atomisation des opinions et des médias via Internet, le peuple, entre guillemets, résiste peut-être moins bien que ne le pensait Jacques Ellul à la propagande étrangère désormais. Les méthodes sont devenues également plus subtiles. Et l'organisme russe, pour prendre un exemple, Russia Today, nous en fournit un bon exemple. J'ai eu le plaisir, l'honneur de suivre la propagande soviétique des années 50 à nos jours, russe maintenant, et je dois dire, je trouve l'actuelle bien plus efficace, plus subtile. Et contrairement à une idée reçue, je ne suis pas certain que la propagande ne soit pas plus facile à l'ère de l'Internet qu'avant. Ce qui n'empêche pas les gouvernements démocratiques d'avoir également une action sur leur opinion. Alors, ou bien ils renoncent à en avoir une, on a des exemples historiques, on se contente de suivre l'opinion. C'est un peu le cas du gouvernement français et britannique au début des années 30, c'est sûr, pendant les années 30. Ils essaient de la manipuler, ça arrive aussi. La manipulation de l'opinion américaine pendant la guerre d'Irak en 2003 est maintenant bien connue et en donne un bon ou désastreux, comme vous voudrez, exemple. Il arrive aussi à des dirigeants de pays démocratiques de guider l'opinion de façon décisive dans d'autres domaines, comme Roosevelt pour combattre l'isolationnisme, majoritaire quand il arrive au pouvoir, et il combat prudemment et de plus en plus efficacement. Churchill pour combattre le défaitisme en juin 1940, qui était un véritable problème pour lui, et de Gaulle, vous le savez, différentes reprises. Il semble qu'il faille pour cela une opinion en plein désarroi dans une période de crise internationale. Et bien entendu, outre les qualités propres des dirigeants en question, il suffit de relire les noms, une influence très organisée et efficace sur les médias, en particulier pour les trois que j'ai cités, la radio et la télévision, en outre pour le général de Gaulle. On remarquera que ces deux médias permettent d'établir un contact direct et quasi personnel avec l'opinion, personne par personne, sans le truchement de la presse, qui leur a été d'ailleurs souvent hostile, comme on le voit dans l'histoire. Ça aussi, c'est un genre de relation entre le grand chef démocratique et l'ensemble des citoyens que Internet remet en question. Bon. Il y a d'autre part aussi des efforts à long terme, au-delà des périodes de crise, par lesquels les gouvernements démocratiques, je dis bien démocratiques, parviennent à susciter, à accompagner, encourager, accélérer des évolutions de fond de l'opinion. À un moment, j'ai eu tendance à vous dire que les opinions évoluaient peu. À d'autres moments, quand même, on peut les faire évoluer. Je citerai deux exemples dans le cas français. La façon dont les dirigeants de la 4e République surdétournaient les Français de la tentation du neutralisme face à l'Union soviétique et réussir à les engager dans le camp occidental tout doucement à partir de 1947. Mais ça a été une véritable campagne, là aussi. Vous aurez des éléments plus précis dans le texte rédigé. Autre exemple, tous les efforts faits à partir du traité de l'Élysée de 1963, dont nous célébrons l'un des anniversaires, pour populariser la réconciliation franco-allemande avec la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, les jumelages, etc. Il est vrai que l'action gouvernementale rencontrait là une évolution spontanée de l'économie de la société dans les deux pays, comme le montrait dès le début des années 1960 la forte augmentation des mariages mixtes. Vous allez me dire, c'est une année... Non, je peux vous dire que le Quai d'Orsay français, qui était très sceptique à l'égard du traité de l'Élysée, disons-le, l'a pris au sérieux. Il a compris que c'était un mouvement de fond quand les consulats ont rapporté l'augmentation d'un seul coup du nombre de mariages mixtes franco-allemands. À l'époque, ça a été aujourd'hui, bon, mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau. Et également la multiplication des échanges culturels, commerciaux et de toute nature entre les deux pays. Bon, et là... L'évolution naturelle et le gouvernement des deux côtés accompagnent. Comment mesurer l'opinion ? Les sondages d'opinion sont difficiles d'interprétation, indépendamment de leur qualité. Le premier sondage Gallup a eu lieu en France en 1938, après les accords de Munich. Juste après les accords de Munich, 57% des sondés sont favorables aux accords de Munich, 37% les désapprouvent. 37% quand même, hein, notons-le. Bon. On a refait le sondage quelques semaines après. Faut-il résister à toute nouvelle exigence de la part du chancelier Hitler ? Oui, 70%. Ou céder à nouveau ? 17%. On en conclut en général que les Français étaient désormais prêts à se battre. Il faut bien voir où ça conduisait. Ce qui peut être, à mon avis, interprété autrement. Quand on étudie bien cette période, beaucoup de ceux qui étaient partisans de résister aux prochaines tentatives d'Hitler étaient persuadés qu'Hitler bluffait et que si on restait ferme, il ne ferait rien. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire qu'on était prêt à mettre le fusil à l'épaule, le casque en tête et monter dans les camions. Bon, on pourrait multiplier des exemples de ce genre, mais il ne suffit pas d'avoir un sondage, il faut ensuite l'interpréter. Bien entendu, les élections au référendum à portée internationale qui peuvent être décisives et trancher le débat. Par exemple, les élections de 1948 en Italie, qui a fixé l'alignement du pays dans la guerre froide, qui n'était pas acquis d'avance. Je dois dire que les Occidentaux, le gouvernement français compris, ont consacré les plus grands efforts à obtenir que les Italiens votent bien. Bon, les Russes aussi de leur côté. Les législatives de 1969 et 1972 en Allemagne, qui ont permis l'Ostpolitik, un des moments les plus importants de la guerre froide. Le référendum sur la Constitution européenne en France en 2005, et évidemment le Brexit en Grande-Bretagne en 2016. Monsieur le Président, je conclus. Il me paraît clair que les deux interprétations opposées, celle de la toute-puissance de l'opinion publique et celle de Bourdieu, sur laquelle elle n'est qu'une création, sont toutes les deux fausses ou incomplètes ou excessives, comme vous voudrez. On a affaire à un ensemble complexe issu de l'interaction permanente entre les courants d'opinion, les médias qui les informent mais aussi les déforment ou les influencent, et les processus politiques qui à la fois sont influencés par l'opinion et tentent de l'orienter. Comment essayer de comprendre ce processus et ses évolutions de façon rationnelle ? Une opinion majoritaire nette ne se dégage en relation internationale. Je ne parle même pas du paradoxe de Condorcet, quand il y a trois options en présence. Ça devient encore plus compliqué, mais ça mériterait une étude spécialisée. Une opinion majoritaire nette ne se dégage en relations internationales que pour de grandes options et dans des moments exceptionnels, concernant des phénomènes d'opinion, je dirais, à évolution lente. Mais les politiques doivent à mon avis, en tenir compte, sinon il risque de provoquer, peut-on constater, des réactions de rejet, je dirais des réactions retard de rejet. Actuellement, en apparence, les moyens de l'Internet, Twitter, changent tout, et d'abord le rythme d'évolution de l'opinion publique et son information. Personnellement, j'en suis pas sûr, car préjugés, réflexes et stéréotypes pressent et même parfois s'exacerbent dans ou à cause, comme vous voudrez, la mondialisation. On peut interpréter les différents cas d'élection que je vous ai cités, ainsi que les dernières élections en République fédérale, montrant le danger de surestimer l'évolution des mentalités, n'est-ce pas, par rapport aux réalités. Autre conclusion, il est certain que la mondialisation, qui est un fait, fait que la différence entre politique intérieure et politique extérieure s'érode. On ne peut plus séparer les deux secteurs de façon tranchée, évidemment, si jamais on a pu le faire d'ailleurs. L'opinion se sent de plus en plus concernée par les conséquences de l'évolution de l'Union européenne et de la mondialisation. Il n'est pas sûr qu'elle trouve de nos jours l'information nécessaire, en tout cas accessible pour elle, devant le kaléidoscope de la toile et de tous les moyens modernes d'information. Le triangle opinion-média-dirigeant ne fonctionne plus, à mon sens, je ne dirais peut-être pas correctement, mais en tout cas de la même façon que la période classique au XXe siècle. En particulier, beaucoup pensent que nous assistons à une crise générale de la démocratie. Bon, je ne prononcerai pas là-dessus, mais à mon avis, ce phénomène est certainement marqué pour la politique extérieure à cause de la difficulté à faire apparaître les options de l'opinion dans ce domaine, à les canaliser dans un processus politique rationnel et à les mettre en application dans un système international enserré par une multitude d'accords et de règles multilatéraux ou même supranationaux. S'il y avait du temps, je développerais l'exemple de la Confédération helvétique qui, sur ce point très précis, tout à fait intéressant. Tout le monde est conscient du problème. On notera depuis 2005 et le Brexit en 2016 le retour, je dirais, de Talleyrand et de la notion d'homme éclairé, évidemment reformulée en termes actuels. Il ne faut pas de référendum, dit-on, c'est trop dangereux face à une opinion fragile. Le gouvernement hollandais est d'ailleurs en train d'abolir, juste en ce moment, le référendum consultatif, le peuple n'ayant pas voté comme on l'escomptait lors des dernières consultations, en particulier à propos du traité d'association avec l'Ukraine, ce qui pose un considérable problème juridique. On note aussi la réaction inverse. Il y a peu, à la fin de l'année dernière, le vice-président du tribunal constitutionnel, le Karlsruhe, a demandé plus de démocratie directe en Europe, davantage de participation aux décisions de l'Union européenne pour générer une véritable opinion politique européenne. Ça prend tout son sens si on se souvient du jugement du tribunal de Karlsruhe en 2008 à propos du traité de Lisbonne. On a fait, je résume, il y a 80 pages, hein, bon. On a fait le maximum admissible pour un nouveau pas vers l'intégration. Il faudrait une confirmation explicite par le peuple allemand qu'on a atteint les limites de la Constitution. C'est très complexe. Il y a une version en anglais pour les petites natures, je le dis tout de suite, mais c'est un texte passionnant. C'est donc une question qui peut revenir sur le tapis, d'autant plus que les projets, vous le savez, de nouveaux traités européens se multiplient et qu'un groupe d'experts du Bundestag vient d'émettre un avis qui comporte des doutes et même la certitude que le Fonds monétaire européen que l'on prévoit n'est pas compatible avec l'état des traités européens tels qu'ils sont, qu'il faudrait donc les modifier, ce qui pose la question de la ratification et un avenir heureux dans les mois ou les années qui viennent. La conception de Cavour, à mes yeux, reste valable et je trouve qu'elle est réalisée actuellement en Suisse, justement, par le système de votation, son aspiration très comparable. On pose au peuple souverain, éventuellement d'ailleurs à partir d'une initiative populaire, une question simple, à charge pour le Parlement et le Conseil national de mettre ensuite sa décision en musique, y compris pour les grandes vocations de politique extérieure, comme l'entrée à l'ONU en 2002, qui a été acceptée, et l'adhésion à l'Union européenne, qui a été rejetée par le peuple souverain en 1992, qui depuis mène d'ailleurs leur seigneurie de Berne à des contorsions diplomatiques et juridiques assez amusantes à observer. Mais enfin, l'électeur, j'insiste là-dessus, reçoit un livret assez court, bien fait, avec des arguments pour et contre la question posée, question simple, livret très lisible et objectif, mis au point par une commission réunissant les différents partis. L'électeur peut voter en connaissance de cause, il ne reçoit pas 470 pages de traités européens non consolidés en plus. Bon, je passe. Enfin, et je terminerai là-dessus, commence à se manifester un mouvement pour répondre radicalement à la thèse de la rupture entre le peuple et les élites, en rapprochant, grâce à l'informatique, l'électeur du processus de décision en faisant voter en permanence grâce à l'électronique. C'est une sorte d'utopie libertaire présentée par les auteurs comme une république universelle d'inspiration kantienne. Je ne peux pas interpréter Kant dans ce sens, mais enfin, cette doctrine existe. Elle revient à fusionner l'évolution de l'opinion et le processus électoral, ce qui est évidemment un autre extrême. Je terminerai, Monsieur le Président, par une boutade. Quoi qu'il en soit, devant l'évolution du couple opinion publique, politique extérieure, question qui est centrale pour des régimes démocratiques. Bon, il me semble qu'entre Talleyrand, Cavour ou Kant, il va falloir choisir. Je vous remercie.
Monsieur le vice-président, bravo.